Imaginons une scène assez surréaliste, en fait. D'un côté, on a un bloc opératoire ultra moderne où un homme de 70 ans subit une reconstruction totale de la prostate. Et ça, c'est réalisé avec une précision millimétrique par un robot chirurgical de dernière génération.
Oui, la pointe de la technologie.
Exactement. Et au même instant, à quelques centaines de kilomètres de là, on a des navires entiers remplis de vaches détaxées qui accostent dans un port.
Ah oui.
Le but, c'est de tenter de sauver un marché national de la pénurie de viande. En fait, c'est vraiment le grand écart permanent. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une nation qui vit un véritable vertige, à la fois technologique et économique. Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie.
Et on peut dire que le matériel qu'on a sur la table aujourd'hui est d'une densité assez rare.
Ok, oui.
On dissèque ensemble les pages de l'édition de mai 2026, donc le numéro 65 du magazine digital marocain LODJ Images. C'est un document fascinant, en fait. Il ne se contente pas d'aligner bêtement des actualités.
Non, pas du tout.
Voilà, il dresse plutôt le portrait d'un système qui est sous tension extrême.
Et d'ailleurs, en parcourant l'ensemble de ces articles, que ce soit des analyses géopolitiques jusqu'aux dossiers sur la santé publique ou même l'art contemporain, il y a une idée centrale qui saute aux yeux.
La fameuse idée de surchauffe.
C'est ça, le concept de surchauffe. On va voir comment le Maroc tente actuellement de garder le cap face à une surchauffe climatique et macroéconomique, tout en gérant une surchauffe microscopique.
À l'intérieur même du corps humain, du coup.
Exactement. L'enjeu à chaque niveau, c'est la recherche désespérée d'un nouvel équilibre.
Et pour saisir la violence de cette surchauffe, il faut d'abord regarder la réalité physique, celle qui est décrite dès l'éditorial du magazine.
Ouais.
On ne parle plus d'un simple coup de chaud, hein. C'est une chaleur estivale précoce, brutale, qui frappe le pays dès le printemps.
Une vraie alarme climatique, en fait.
Tout à fait. Et cette alarme, elle résonne directement dans l'économie réelle. Parce que ce dérèglement provoque un stress hydrique massif. Et ce manque d'eau, il assèche complètement les rendements agricoles.
Ce qui nous ramène du coup à ces fameux navires remplis de bétail dont je parlais au début. Les sources expliquent que, pour éviter une pénurie totale de viande rouge, l'État a dû prendre des mesures d'urgence absolue.
Ouais, des mesures assez radicales même.
Tellement radicales que ça a propulsé le Maroc au rang de deuxième importateur mondial de bovins vivants.
C'est vertigineux.
C'est incroyable. Les importations sont massivement subventionnées, donc zéro droit de douane et zéro TVA. Mais attendez, comment une telle mécanique fonctionne sur le terrain? Je veux dire, importer des vaches sans taxes, ça stabilise peut-être le prix chez le boucher, mais quel est l'impact sur l'éleveur local, qui, lui, n'a plus une goutte d'eau pour son propre troupeau?
C'est là qu'on touche à toute la complexité de l'interventionnisme d'urgence. D'un côté, on a le gouvernement qui agit littéralement comme un pompier.
Ouais.
En supprimant les barrières douanières, il inonde le marché pour faire baisser mécaniquement les prix. Le but, c'est d'éviter une explosion sociale, tout simplement.
D'accord.
Mais d'un autre côté, ça crée une concurrence asymétrique effroyable pour le producteur local. L'éleveur dont vous parlez, il paie son fourrage à prix d'or à cause de la sécheresse. Et là, il se retrouve face à une viande importée qui est artificiellement moins chère.
Donc c'est une rustine macroéconomique, en fait, pas du tout une solution structurelle.
Exactement, c'est du court terme.
Et le pire, c'est que la viande n'est même pas une exception. La flambée touche les fondations absolues de l'alimentation. Prenez la tomate.
Le cœur du panier alimentaire.
Voilà. En avril, les prix ont fait des bonds hallucinants, entre 12 et 20 dirhams le kilo.
Ah oui, quand le produit de base absolu devient un produit de luxe, tout le système vacille.
Surtout quand on y ajoute la pression internationale. Parce que les conflits au Moyen-Orient et en Europe orientale, ils font flamber le baril de pétrole et le cours des céréales.
Tout à fait.
D'ailleurs, les sources mentionnent que Royal Air Maroc a carrément dû suspendre certaines lignes internationales tellement le coût du kérosène devenait insoutenable. C'est comme si le moteur économique tournait en sur-régime et que tous les voyants du tableau de bord clignotaient en même temps.
C'est une excellente analogie. Et ça soulève une question fondamentale, qui est très bien abordée dans les colonnes du magazine, c'est celle de la sincérité politique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, face à un marché libre devenu aussi chaotique et volatile, quel est le vrai rôle de l'État ? L'analyse proposée dans nos sources est très claire. L'État moderne n'a pas à être l'ennemi du marché. Par contre, il doit en être l'arbitre intraitable, surtout quand on a des intermédiaires qui profitent de la panique générale pour stocker la marchandise et faire monter les prix artificiellement.
La fameuse spéculation.
Voilà. Quand la spéculation devient plus rentable que la production agricole elle-même, l'État doit siffler la fin de la récréation.
Mais arbitrer un marché pareil, c'est un travail de titan, surtout à l'approche des élections législatives du 23 septembre.
Oui, avec 395 sièges en jeu, l'enjeu est colossal.
C'est ça. Et la marge de manœuvre semble vraiment minuscule quand on regarde les statistiques officielles. L'une de nos sources cite le HCP, le Haut Commissariat au Plan.
L'Agence nationale de la statistique.
Exactement. Et franchement, les chiffres font froid dans le dos. Plus de 75% des emplois relèvent de l'économie
Ben
informelle.
c'est énorme.
Et sur les 28 millions d'électeurs potentiels, 40% ne sont même pas inscrits. Enfin, comment on peut réguler une économie quand les trois quarts des travailleurs échappent complètement aux radars officiels?
Ben c'est le nœud du problème. On ne peut pas taxer, on ne peut pas protéger et on ne peut pas réguler ce qui n'a pas d'existence légale. Une économie à 75% informelle, c'est comme un moteur qui tourne sans huile. Les amortisseurs sociaux n'existent tout simplement pas.
C'est terrifiant dit comme ça.
Donc, la future majorité ne devra pas seulement affronter l'inflation, elle devra surtout convaincre des millions de citoyens de rentrer dans le système formel.
Et c'est là que notre exploration bascule dans un paradoxe total. Parce que si on s'arrête à ce constat, on pourrait imaginer un pays à l'arrêt, complètement sclérosé.
Oui, alors que c'est tout l'inverse.
Voilà, c'est ça qui est fou. Le pays accélère violemment vers la quatrième révolution industrielle. Les succès s'enchaînent. Par exemple, l'industrie aéronautique marocaine produit désormais des composantes très complexes pour Airbus.
Oui, le Made in Morocco n'est plus juste un slogan de communication. C'est devenu un vrai label de haute précision.
Et les victoires sont aussi diplomatiques. Le pays figure dans le top 5 mondial pour les demandes de visa Schengen.
Avec 480 000 accords en 2025 sur plus de 619 000 demandes, c'est un flux massif.
Et il y a aussi ce symbole diplomatique très fort, mentionné dans les sources, la réouverture de l'ambassade de Syrie à Rabat après plus de 10 ans de fermeture. C'est vraiment l'image d'un hub diplomatique incontournable.
Tout à fait. Et sur le plan intérieur, l'administration se numérise à la vitesse de la lumière.
Ah oui, l'application Passeport Jeunesse.
Exactement. Elle cumule déjà 1,7 million de téléchargements. Même l'OMS félicite le pays pour la rigueur de son système de suivi statistique médical.
C'est fou cette dualité.
Et puis, il y a ce fameux exploit de l'hôpital militaire Mohamed V qu'on évoquait au début, avec cette ablation et reconstruction de la vessie et de la prostate assistée par robot chirurgical.
Ouais, c'est fascinant. Mais là, je dois jouer l'avocat du diable une seconde.
Allez-y.
Avoir une application mobile ultra fluide téléchargée par des millions de jeunes, c'est super. Avoir des robots chirurgicaux, c'est génial. Mais est-ce qu'une interface digitale aide réellement un jeune à trouver un emploi dans une économie qui, on vient de le dire, est informelle à 75%? Surtout quand on regarde la situation de certaines catégories de la population. Il y a un angle mort gigantesque dans la société.
Ah, la question est redoutable, et vous avez raison. Numériser une bureaucratie, ça ne résout en rien la rareté de l'emploi formel.
Ben non.
C'est exactement le grand écart que vous décriviez en introduction. Et la fracture la plus violente, on la trouve dans les chiffres d'une étude menée par la chercheuse Ouda Lanzari pour le CMRAP.
Le Centre de recherche socio-économique.
C'est ça. Les données de cette étude révèlent que 30,2% des femmes marocaines diplômées du supérieur sont au chômage.
30,2%.
Contre seulement 17,9% pour les hommes.
Mais attendez. Près d'un tiers des femmes qui ont fait de longues études se retrouvent sans emploi. C'est un gâchis de compétences monumental.
Et ce n'est pas tout. Si on regarde bien l'étude, le taux d'activité féminin global a même dégringolé.
Ah bon?
Oui, il est passé de 20,4% en 2014 à 16,8% en 2024.
Mais comment on peut expliquer un tel recul alors que l'accès à l'université n'a jamais été aussi large pour les femmes?
Eh bien, c'est le symptôme d'un blocage qui n'est pas du tout technologique, mais profondément sociétal.
D'accord.
En gros, la modernisation des infrastructures va beaucoup plus vite que l'évolution des mentalités ou la structuration du marché du travail.
Ouais, le matériel évolue plus vite que le logiciel, en fait.
Exactement. Les entreprises formelles peinent à absorber cette main-d'œuvre très qualifiée. Et l'économie informelle, par sa nature même, offre très peu de cadres sécurisants pour les femmes.
C'est logique.
Donc on se retrouve avec ce paradoxe hallucinant. On a des usines capables de fournir des pièces pour Airbus, mais un marché du travail qui rejette ses propres diplômés. L'outil de production est de plein pied dans le XXIe siècle, mais une partie des dynamiques sociales reste complètement figée.
C'est une tension épuisante pour la société. Et c'est justement cette tension permanente, cette espèce d'injonction à la performance, mêlée à des blocages structurels profonds, qui finit par s'infiltrer jusque sous la peau.
Tout à fait.
Parce que si la société est en surchauffe macroéconomique, le corps humain, lui, n'est pas épargné. Et ça nous amène, de manière très organique, à la grande enquête de nos sources sur l'inflammation chronique.
Ah oui, le grand dossier santé du magazine.
Voilà. C'est vraiment le miroir parfait, le pendant biologique de l'inflation économique.
La comparaison est très pertinente. En fait, l'inflammation, à la base, c'est le mécanisme naturel de sauvetage du corps.
C'est un système de défense.
C'est ça. Vous vous coupez, la zone rougit, elle chauffe et elle gonfle. C'est simplement le système immunitaire qui envoie ses troupes pour réparer les tissus endommagés. Le danger surgit quand cette réaction ne s'arrête plus.
Pour reprendre une image qu'on utilise souvent, c'est comme si vous aviez un détecteur de fumée qui se déclenche dans la maison, mais qui ne s'éteint jamais.
C'est exactement ça.
À force de hurler au feu alors qu'il n'y a pas de vraie flamme, le système immunitaire finit par devenir fou. Il prend une hache et commence à détruire les murs de la propre maison pour chercher cet incendie fantôme. L'inflammation devient ce feu intérieur, silencieux, qui abîme les vaisseaux sanguins et qui épuise les organes jour après jour.
C'est une métaphore parfaite. Et les sources expliquent très clairement les rouages de cette machine infernale.
Comment ça fonctionne exactement ?
Eh bien, ça repose sur ce que les experts appellent un triangle invisible.
Le triangle invisible ?
Oui. Le sommeil, le stress et l'alimentation.
D'accord.
Quand l'urgence de la vie urbaine moderne dégrade le sommeil, le corps ne parvient plus à éliminer les toxines accumulées la journée. En réponse à ça, il panique un peu et produit massivement du cortisol.
La fameuse hormone du stress.
Voilà.
Et ce pic de cortisol, on le sait, donne une envie irrépressible de sucre. D'ailleurs, l'enquête démonte un mythe très tenace, celui de la prise de poids par simple manque de volonté.
Oui, les fameux faux régimes.
C'est ça. On ne grossit pas juste parce qu'on fait des écarts ou qu'on est paresseux. On grossit parce que ce dérèglement hormonal bloque complètement le métabolisme. Le corps se sent agressé en permanence, donc il stocke chaque calorie comme une réserve de survie en prévision d'une famine. Et du coup, les régimes draconiens ne font pas jeter de l'huile sur le feu. Ça stresse l'organisme encore davantage et ça provoque le fameux effet yo-yo.
Et la clé de tout ça, elle réside dans notre intestin.
Le deuxième cerveau.
Exactement. Il abrite le microbiote, ces milliards de bactéries qui dirigent une grande partie de notre immunité. Si ce microbiote est nourri quotidiennement au sucre industriel et aux produits ultra-transformés, l'inflammation flambe.
C'est inévitable.
Donc, l'un des premiers leviers d'action mentionnés par les neuroscientifiques dans l'article, c'est d'abandonner le petit-déjeuner sucré traditionnel.
Fini les viennoiseries.
Fini. Il faut passer à un repas riche en protéines, en fibres et en bons gras. Le but, c'est d'éviter le fameux pic de glycémie matinale, parce que c'est lui qui va dicter la fatigue de toute la journée.
Et cette lutte contre les pics glycémiques, c'est un vrai sujet mondial. Il y a un détail fascinant qui ressort de la rubrique santé, une recherche menée à Singapour.
Ah oui, l'étude sur le pain ?
Voilà. Des chercheurs ont réussi à faire baisser l'indice glycémique du pain blanc de manière assez étonnante en y incorporant des résidus de fruits tropicaux. Mais concrètement, comment un simple reste de fruits peut modifier la façon dont le pain réagit dans notre sang ?
C'est de la chimie alimentaire très astucieuse, en fait. Les résidus de ces fruits sont gorgés de fibres solubles très spécifiques et de polyphénols.
D'accord.
Lorsqu'ils sont intégrés directement à la pâte du pain, ils agissent comme une sorte de filet protecteur. Pendant la digestion, ces composés viennent ralentir l'action des enzymes qui sont chargées de découper l'amidon du pain en sucre simple.
Ah, malin !
Oui, et le résultat, c'est que le sucre passe beaucoup plus lentement dans la circulation sanguine. Ça évite la fameuse montée brutale d'insuline et donc le coup de fatigue qui suit juste après le repas.
C'est brillant ! Mais l'ironie culturelle cruelle de cette histoire, c'est que l'antidote, le Maroc l'a déjà à la maison.
Oh oui, totalement.
Les sources le soulignent très bien. Le régime marocain traditionnel, c'est l'huile d'olive, les légumineuses comme les lentilles ou les fèves, les épices qui ont des propriétés antioxydantes massives. En fait, c'est littéralement le bouclier anti-inflammatoire parfait.
Un patrimoine protecteur inestimable.
Et pourtant, par manque de temps, par urgence ou par une sorte de mimétisme de la modernité urbaine occidentale, on est en train de sacrifier ce trésor millénaire pour des sodas et du pain blanc industriel. C'est quand même l'abandon d'un remède préventif au profit d'une alimentation qui, au fond, fabrique la maladie.
C'est ce que le magazine nomme très brillamment la perte de l'intelligence du quotidien.
L'intelligence du quotidien, c'est une belle expression.
Oui, parce que lutter contre l'inflammation, ce n'est pas une question de pilule miracle à avaler. Le remède n'est pas strictement médical, il est comportemental.
Une hygiène de vie globale, en somme.
C'est par l'urgence. Il s'agit donc de retrouver un rythme, de réhabiliter des choses simples comme la marche, de respecter les temps de repos, de revenir à une nourriture locale non transformée. C'est un appel à ralentir avant que le corps ne doive être réparé d'urgence.
Sauf que dire ralentissez, ben c'est facile en théorie.
C'est sûr.
Si l'environnement modère et l'inflation provoquent cette inflammation physique, comment on fait pour redescendre en température ? On ne peut pas tous tout quitter pour aller vivre en ermite dans les montagnes de l'Atlas.
Non, évidemment.
Et c'est là que la dimension culturelle de nos sources prend tout son sens. La culture n'est pas juste là pour faire joli ou pour remplir des pages. Elle est présentée comme le véritable remède prescrit face à cette surchauffe.
Tout à fait. La culture offre ce sas de décompression vitale. Par exemple, prenez le poème d'Adnan Ben Chakron, qui s'intitule « L'humanité demande une pause ».
Ah oui, magnifique texte.
Il synthétise parfaitement cette urgence. Il met des mots sur cette fatigue viscérale qui s'est accumulée. Depuis 2020, avec la pandémie, en passant par les guerres, l'inflation galopante, les alertes climatiques, la psyché collective est complètement essorée. Ce poème, ce n'est pas qu'une plainte littéraire, c'est une revendication presque politique pour un droit au temps d'arrêt psychologique.
Et ce qui est fascinant, c'est la forme très inattendue que peut prendre ce temps d'arrêt ou cet apaisement. Par exemple, dans l'éditorial consacré à El Madina, donc lors du grand pèlerinage du Hajj, l'auteur décrit une scène qui défie presque l'intuition.
Comment ça ?
On y voit des millions de personnes de dizaines de nationalités différentes qui sont rassemblées sous une chaleur écrasante, épuisées par la marche. On pourrait s'attendre au chaos total. Et pourtant, il en émerge ce qu'il appelle un civisme silencieux. Le véritable apaisement ne se trouve pas sur une plage isolée, tout seul, mais dans cette capacité à coexister pacifiquement avec une foule immense. Ne pas bousculer l'autre, laisser sa place, maintenir une discipline douce, c'est la spiritualité vue comme la manière de se tenir parmi les autres.
C'est vrai que c'est un laboratoire social extraordinaire. Face à l'hyper-individualisme des grandes villes qui génère tant de stress, cette expérience prouve que la concentration humaine ne mène pas obligatoirement à l'attention si elle est sous-tendue par un objectif spirituel commun et un respect mutuel.
Et ce refus de la frénésie, on le retrouve aussi de manière très inattendue dans l'art contemporain.
Au FICAM notamment.
Voilà, au Festival de cinéma d'animation de Meknès, la réalisatrice Sandra Desmazières y a tenu un discours très puissant sur l'animation artisanale. À l'heure où l'intelligence artificielle génère des images lisses, parfaites et en quelques secondes, elle défend le temps long.
Le temps long, le geste manuel, le grain.
Exactement. La matière, l'imperfection, face à la perfection artificielle de l'image numérique.
Et c'est là qu'on touche au cœur de la contradiction de notre époque. L'intelligence artificielle fascine le monde économique parce qu'elle efface l'effort humain.
Ouais.
Mais l'art de Sandra Desmazières, lui, revendique l'imperfection. Parce que c'est précisément dans les défauts, dans les textures, que se cache la véritable émotion humaine.
C'est fou parce que c'est exactement le miroir de l'introduction qu'on a faite tout à l'heure.
Ah oui, avec le robot.
Oui, on exige la froide perfection d'un robot pour opérer notre prostate, pour garantir une efficacité absolue sans aucune marge d'erreur. Mais quand il s'agit de notre âme, quand on regarde un écran ou une toile, on rejette cette perfection algorithmique.
On a besoin d'humanité.
C'est ça. On réclame la faille humaine, la texture de l'effort, la trace du pinceau. Dans un monde obsédé par la vitesse, revendiquer le droit au défaut devient un acte presque rebelle.
Et cette quête de sens, de connexion humaine, elle irrigue en fait toutes les initiatives culturelles mentionnées dans le magazine.
Vous pensez à quoi ?
Prenez l'exposition « Maroc en héritage » à la Galerie Babrois. Elle ne se contente pas d'exposer des costumes traditionnels sous vitrine. Elle les élève au rang de langage contemporain pour recréer du lien avec la mémoire.
Très juste.
Ou alors l'émission très populaire « Lala Laroussa » qui, pour fêter ses 20 ans, offre une omra aux mamans des candidates. Ça replace la gratitude filiale au centre de l'attention médiatique.
C'est un beau symbole.
Et même la désignation de Rabat comme capitale mondiale du livre pour 2026. Tout ça participe à un effort monumental pour tisser du lien et du sens, là où l'économie, elle, crée de la tension et de la division.
Donc si on rassemble un peu toutes les pièces de ce puzzle, le panorama qu'on a dressé est impressionnant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On a observé un pays qui cherche désespérément à réguler son marché face aux crises climatiques et à la flambée des prix en utilisant des mesures d'urgence comme les vaches détaxées.
Ouais.
On a vu le décalage vertigineux entre des succès technologiques foudroyants comme ces pièces pour Airbus et des blocages sociétaux profonds avec un taux de chômage féminin alarmant. On est aussi entré dans l'intimité du corps humain où le stress déclenche ce feu immunitaire qu'on appelle l'inflammation, alors que notre propre patrimoine culinaire pourrait l'éteindre.
Exactement.
Et enfin, on a compris que le besoin vital d'une pause culturelle et spirituelle, c'est finalement le baume nécessaire pour apaiser cette surchauffe globale.
C'est une véritable cartographie de la résilience qu'on vient de tracer. Le système vacille, il est chahuté, il cherche des solutions d'urgence, mais il refuse de s'effondrer. Mais pour clore un peu cette réflexion, je voulais m'arrêter sur un fait scientifique fascinant qui est évoqué presque discrètement dans nos sources, à la fin.
Ah oui, je vois de quoi vous parlez.
Ça illustre magistralement cette capacité de renaissance. Il s'agit d'un projet de réintroduction du crocodile du Nil, ou plus précisément le crocodile d'Afrique de l'Ouest, dans la vallée du Drâa.
Un super prédateur qui, rappelons-le, a totalement disparu du paysage marocain depuis des décennies à cause de la sécheresse et du braconnage.
Précisément. Et aujourd'hui, des scientifiques travaillent d'arrache-pied pour le ramener. Vous allez me dire, pourquoi ramener un tel prédateur ?
C'est vrai, ça paraît contre-intuitif.
Parce que ce crocodile n'est pas juste un monstre des rivières, c'est l'architecte même de son écosystème. Sa présence régule les populations de poissons. Il creuse des points d'eau profonds qui deviennent essentiels pour la survie des autres espèces, pendant la saison sèche. En fait, il maintient l'équilibre général de ces zones humides millénaires.
C'est une métaphore finale redoutable. Si des scientifiques armés de patience sont capables de faire renaître un écosystème entier simplement en y réintroduisant la pièce maîtresse qui semblait perdue à jamais, alors l'humanité a sans doute toutes les cartes en main pour retrouver son propre équilibre naturel.
C'est un beau message d'espoir.
Face au chaos de la modernité, à l'inflation galopante, ou même à notre propre inflammation physique, il suffit peut-être simplement de retrouver notre centre de gravité, de réintroduire ces rythmes traditionnels et cette sagesse oubliée pour remettre un peu d'ordre dans le système. C'est un appel puissant à méditer sur notre propre résilience. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour cette plongée au cœur de nos sources. Prenez le temps de respirer, de faire une pause, et veillez surtout à ne pas laisser votre propre moteur monter dans le rouge. À très bientôt.